I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, Sens Créatif fêtera sa 5e bougie lors d'un épisode d'anthologie enregistré en public à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Avec un casting 5 étoiles dont le joyeux duo Grosduc et Boucard, le talentueux Pierre-Emmanuel Lillet et la luxuriante Yukiko Noritake. Sans oublier la petite rétrospective sur l'histoire de Sens Créatif en deuxième partie. On espère vous y voir très nombreux. Et comme on ne fait jamais les choses à moitié, en guise de compte à rebours, nous avons le plaisir de vous annoncer que chaque jour jusqu'au 6 décembre, nous rendrons public les 6 épisodes des Keepers of the Keys qui étaient précédemment une exclusivité pour les membres du Patate Club. On espère que ça vous plaira et on compte sur vous pour être nombreux et nombreuses lors du live enregistré à la Slow Gallery le 6 décembre prochain. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club et qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un DA, d'une galeriste, d'un éditeur ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, nous sommes heureux d'accueillir Jérémy Martinez, cofondateur et directeur artistique du magazine Kiblind, qui est devenu bien plus qu'un magazine, car aujourd'hui, Kiblind, c'est aussi une agence ainsi qu'un atelier. Bienvenue sur Sens Créatif, Jérémy.
Merci beaucoup.
Salut Jérémy.
Et bonjour à tout le monde.
Salut. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Merci de dégager du temps pour papoter avec nous.
Avec plaisir.
Est-ce que, pour commencer, Jérémy, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore, qui connaissent Kiblind, mais qui ne savent pas qui sont les visages derrière ce magnifique magazine et toute cette galaxie que vous avez créée, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Moi, je suis un des 3 cofondateurs de Kiblind, projet qu'on a monté il y a maintenant près de 20 ans, puisque c'était le premier numéro date de mai 2004. Je partage cette aventure avec mes collègues et camarades et amis Jean et Gabriel depuis cette époque. Et j'ai là, pour moi, la casquette plutôt de direction artistique, c'est-à-dire plutôt un œil que est porté sur toutes nos activités que sont l'agence, le magazine et l'atelier, avec la spécificité qu'on co-gère cette aventure tous les 3 en direction de projet, on va dire. Donc voilà, à peu près, pour faire très court.
Et tous les 3, du coup, vous êtes rencontrés comment ?
Et on s'est rencontrés à la fac en sciences politiques. C'était un projet que moi j'avais monté au lycée à la base sous forme de fanzine qui s'appelait déjà Kiblind, mais qui était pas du tout comme il a pu devenir ensuite. C'était vraiment une simple feuille A3 classique comme un fanzine de lycée. Et puis avec Jean et Gabriel et d'autres camarades de sciences politiques de l'époque et d'ailleurs aussi, on a remonté le projet. Ensemble, en étant bénévole pendant un bon moment, animé par la volonté de faire un magazine pour nous qui avait vraiment une. Aujourd'hui, c'est moins la mode du magazine, mais à l'époque, faire un magazine, ça voulait dire beaucoup, et de pouvoir être une caisse de résonance pour tous les artistes qui n'étaient pas connus, puisque dès le départ, la vocation du magazine était d'être gratuit, distribué massivement, on va dire, selon nos moyens, mais de pouvoir tomber dans les mains de n'importe qui par hasard et de pouvoir communiquer sur l'illustration, le graphisme. À la base, il y avait même des textes, de la poésie. C'était un peu plus large. C'était un peu plus large au début. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est concentré sur l'illustration.
Et d'où vient cet intérêt, du coup, pour l'élu, vu que vous êtes rencontré en sciences politiques, d'où vient ce goût pour la belle image?
C'est un goût partagé. Après, d'un point de vue personnel, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, d'avoir des parents qui avaient pas mal de magazines, justement, qui étaient dédiés à la photo, à l'art en général. Et mon père aussi collectionnait les comics américains, les vieux comics. Donc, sans être du tout dans le milieu, puisqu'il faisait un boulot qui n'a rien à voir avec ça, mais il m'a donné un peu cette curiosité, simplement, pour la chose graphique et illustrée.
Et puis, il y a un comics qui te revient comme ça en tête particulièrement?
C'était les Raons, les choses comme ça. Enfin,
Raons, ouais.
Les vieilles choses qu'on pouvait trouver dans les vide-greniers. Mais moi, j'aimais bien tout lire, en fait, quoi. Tout simplement ce qui passait sous la main, et avoir tous ces objets-là à la maison. C'est vrai que ça permettait de rendre curieux pour ce domaine-là, quoi.
Et il y avait des magazines ou des fanzines qui t'ont marqué et que tu t'es dit, punaise, j'ai trop envie de faire un truc un peu pareil, m'en inspirer?
C'est difficile, je pourrais pas vraiment ressortir des noms, parce que c'était vraiment beaucoup de choses qui étaient sous la table basse. Et puis mon père, je pense, était pas avare de... Il prenait un peu tout, et c'est ça qui était intéressant. Et quand on a réfléchi avec Jean et Gabriel au départ à ce qu'on voulait faire et comment on voulait réfléchir à la structure de Kiblind, du coup, ça nous a permis un petit peu de partir dans toutes les directions avant de resserrer ce que c'est aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, la maquette, elle est un peu plus, on va dire,
bien carrée.
Bien carrée, ouais, voilà.
Ouais, ouais. Il y a Clément qui nous fait un petit peu le côté légende. Je pensais que c'était des étudiants des Beaux-Arts à l'époque.
Non, mais on aurait peut-être bien aimé, mais c'est vrai que on a suivi des formations qui, à la base, je pense, c'était pour nous amener plutôt à des boulots de journaliste, on va dire, avec cette volonté de partager des connaissances au plus grand nombre, et ça s'est transformé via l'illustration et via l'image.
Et c'est pour ça que Kiblind, en fait, a toujours ce côté, justement, entre guillemets, documentaire, article. Enfin, il y a de l'article, quoi, dans Kiblind. Ouais. C'est pas juste des images, quoi.
Ce qu'on aime bien faire, c'est à la fois travailler sur l'illustration en tant que médium, et aussi travailler sur la question des supports, c'est-à-dire réfléchir à comment on peut mettre en scène, mettre en page, mettre en lumière, mettre en vidéo, enfin voilà, pouvoir mettre orchestrer un peu les contenus. Et c'est vrai que c'est à peu près au même niveau que notre passion pour l'illustration, c'est-à-dire essayer de se prendre la tête pour trouver des moyens de présenter les choses. Alors, de façon originale, ça veut rien dire, parce que tout le monde est original de toute façon, mais voilà, essayer de d'y réfléchir, en tout cas, et de se prendre la tête là-dessus pour en sortir quelque chose de joli, certes, mais aussi d'intéressant, quoi.
Et alors, comment vous avez connecté à l'époque tous les trois pour justement amener des illustrateurs, des illustratrices à travailler avec vous, même des poètes? Tu parlais de poésie aussi.
En fait, l'illustration en particulier, je pense que c'est vraiment une question d'époque, c'est-à-dire que on est au début des années 2000, donc vu que maintenant on commence un peu à se faire vieux, il faut se rappeler qu'à l'époque il n'y avait pas forcément d'internet comme aujourd'hui, il n'y avait Instagram comme aujourd'hui, il n'y avait pas forcément les outils pour faire la promotion d'un domaine.
C'est encore la période des books.
D'un domaine qui n'existait pas en plus, quoi. C'est-à-dire que l'illustration en tant que telle, aujourd'hui c'est très démocratisé, ça a toujours existé. Simplement, par contre, c'est vrai que la place qui était donnée à l'illustration était beaucoup moins balisé, quoi. On sait qu'en France, on a sans doute toujours besoin d'avoir des marqueurs ou des référents pour pouvoir dire qu'un telle ou telle chose existe. L'illustration était positionnée à l'endroit de la carte, au milieu de plein d'autres choses, comme la BD, comme le dessin d'art, comme le graffiti, comme le street art, voilà. Et il n'y avait pas vraiment une vocation à exister en tant que telle.
À l'époque, il y avait beaucoup de magazines, justement, ou de fanzines, ou de magazines de design graphique. Ça, c'était vraiment super à la mode.
Et le design graphique. Et c'est vrai que...
Je pense à Emigre, notamment.
Ouais, tout à fait.
Des magazines comme ça, ouais.
Et je pense qu'on a accompagné ce mouvement-là de développement en étant spectateur hein, de ça aussi. C'est que l'illustration est devenue... alors, on sait qu'il y a un peu des courants, des modes dans les arts visuels, mais est devenue plus... Au bout d'un moment, est venue concurrencer la photo sur pas mal de supports, sur pas mal de prises de parole. Et puis, et aujourd'hui, ben, on se rend compte que l'illustration est au cœur de la société. Et pour nous, c'est assez génial de se dire que ce médium-là, on peut l'emmener le plus loin possible, quoi.
C'est fort de ce que tu dis là, que l'illustration est au cœur de la société. J'ai parfois l'impression que peut-être dans le milieu, on pourrait peut-être parfois se dire qu'on est dans une niche ou genre, oh là là, on a du mal à se faire entendre. Alors que quand toi, je t'entends, tu dis, bah non, c'est au cœur de la société, c'est fort.
Bah, après, c'est peut-être plus de l'ordre de la conviction, mais c'est que l'illustration, elle a cette force qu'elle renvoie... en tout cas pour nous, un imaginaire, un champ des possibles.
Et, ouais, le pouvoir de décider.
Et c'est aujourd'hui, je pense, alors je ne sais pas si c'est plus qu'hier, mais disons que ça prend beaucoup de sens aujourd'hui, quoi, de pouvoir mettre des images, des dessins sur des réalités voilà, qu'on ne peut parfois pas montrer ou qui reste de l'ordre du fantasme. Ça a une force... C'est très fort, quoi.
Ouais. Bon, tu prêches à des convertis, hein, donc.
Oui, j'imagine.
On a pas de compte à faire là-dessus.
Mais ce qui est intéressant, c'est que toi-même, tu ne dessines pas, tu n'as pas de discipline plastique ou artistique.
Si, tu prends des photos aussi.
Oui, des photos, tu fais des photos.
Non, même pas forcément. Moi, à la base, c'était vraiment la mise en page. C'est moi qui faisais la mise en page, et ça m'arrive.
Ah oui, bah voilà. Il y a comme cette approche-là, ouais. Ok, ouais.
Sur du graphisme et de la maquette en autodidacte, avec des amis, qui nous ont aidés au début, c'est des copains donc designer lumière qui s'appellent Pitaya, donc ils font rien à voir avec ça, mais qui font maintenant du design d'objets lumineux et qui à la base m'ont pris par la main pour me montrer un peu les outils à la base à l'époque Express, même avant InDesign, et puis ouais. Et puis bah il s'agissait de sortir un magazine au début tous les deux mois, puis tous les trois mois, et ça demandait un temps considérable parce qu'on travaillait pas de la même manière qu'aujourd'hui, les outils étaient pas aussi développés, pas aussi automatisés, et chaque double page nécessitait des heures et des heures de boulot.
Tu l'avais pensé, ouais. Tu veux bien si on retourne back in times, on retourne un petit peu en 2004 et puis tu nous fais un petit peu la jeunesse du projet de 2004 à aujourd'hui, un peu comment raconte-nous un peu l'histoire de Kiblind.
Bah 2004, donc on était plutôt 2003, on était en fac de sciences politiques avec mes camarades Jean et Gabriel, avec du temps, bah comme quand on est à la fac, avec un peu de temps en parallèle des études et l'envie surtout de construire quelque chose ensemble. Ce projet-là que moi j'avais un petit peu sous le bras de toute façon et que on a voulu développer, on a fait un numéro zéro. À l'époque, parce que c'est comme ça qu'on faisait pour démarcher des petits commerces, puisque c'était l'idée hein, de trouver un peu des sous pour pouvoir l'imprimer. Je crois que les premiers numéros, on les a sortis à 5000 exemplaires à Lyon au début, et puis bah on a
donc c'était de la prospection locale.
Ah ouais, on était vraiment, on passait nos journées à pied ou à vélo et aller voir les coiffeurs, les bars, les restaurants pour aller essayer de gratter
un tisser là,
vivre votre projet.
Voilà, c'était et puis ouais, on était vraiment pas nombreux. Et après sur la genèse du projet, ce qui est intéressant, ce qui montre un petit peu comment on travaillait, c'est que on s'est assez vite rendu compte de la difficulté de trouver des sous. Et de la complexité quand on n'est pas connu en fait de sortir un projet et aucun d'entre nous était connu dans son domaine, aucun d'entre nous n'avait déjà fait ça avant, on n'avait personne un peu pour nous aider, donc on a réfléchi à un système un peu parallèle pour financer le magazine et on a créé un pass culturel à Lyon pendant quelques années, on l'a arrêté je sais plus il y a 4-5 ans. Le deal était assez simple, c'est-à-dire qu'on échangeait des pages de publicité qu'on n'arrivait pas à vendre en parallèle contre des places de spectacle avec des théâtres, avec des cinémas, des salles de concert, et on revendait un service de billetterie en parallèle. Donc même on était chez un copain tous les mercredis après-midi. Au début on répondait au téléphone, les gens réservaient chez nous. Enfin c'était une usine à gaz. mais ça nous a permis, mine de rien, en fait, de lancer le projet. C'est-à-dire que ces petits passes qu'on vendait 50 euros pour 15 places, je crois, c'était un truc comme ça. Donc, tu payais 50 euros à l'année. Et puis, ça te donnait droit à 15 places gratuites, entre guillemets, de spectacle chez nos partenaires. Mais c'était nous qui gérions le calendrier à base de tableurs Excel, etc. au début. Ouais. Mais ça nous a donné les quelques milliers d'euros pour pouvoir imprimer les premiers numéros, quoi. Donc la genèse, elle est là, et puis ça s'est développé. On a commencé à se rendre compte que ça répondait un petit peu chez les gens, le public, les annonceurs, parce que l'idée c'était toujours qu'il soit gratuit, et il l'est toujours.
C'est fort ça.
Et puis en 2008, assez spontanément, enfin il y avait un des trois associés, Gabriel, lui était monté à Paris entre-temps et avait travaillé un petit peu en agence de communication et on avait des demandes en parallèle par rapport à l'orientation assez graphique du magazine de prestations. On n'arrivait pas trop à formaliser ça au départ, mais assez naturellement en 2008, on a monté à ce moment-là, on a arrêté l'association et on a monté une SARL classique avec cette agence de communication. Qui au début s'appelait Clare parce qu'on voulait pas mélanger
je me souviens.
Les deux, ouais.
Les deux. Et puis avec le temps on s'est rendu compte que finalement c'était quand même le plus simple, c'est d'expliquer vraiment ce qu'on faisait et du coup on a tout remis sous le nom de Kiblin. Et puis en 2017, pour faire un accélérateur de temps, on a eu l'opportunité d'avoir l'atelier à côté de nos bureaux rue Bouteille à Lyon. Dans l'idée, on voulait ouvrir un lieu. Enfin, on avait ce fantasme d'ouvrir un lieu et dédié à l'impression, à faire des expos, etc. Donc, bon, là, le lieu, il est assez petit. Hein. En l'occurrence, il fait 50 mètres carrés, donc on peut pas faire des folies. Mais on a pu y installer une RISO, commencer à faire des petits événements avec Christina Dora, Maria Medem, Thomas Gomat, qu'on a pu inviter au début, et puis lancer un petit peu cette autre aventure qui est les posters illustrés, que sont les posters illustrés, et l'édition. Et en parallèle, ça s'est développé. Du coup, maintenant, on trouve un peu ces posters un peu partout, dans le monde, dans des petits endroits qui nous ressemblent.
Les galeries,
les galeries, voilà, etc.
Les lieux culturels, les librairies. Et donc,
moi c'est un retour en arrière. Moi je vais faire un flashback. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire, Jérémy? Moi je fais un petit flashback. En fait, c'est juste pour revenir sur le contenu éditorial en fait des débuts de Kiblin. En fait, savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement qu'il y ait un public de lecteurs. Et c'était quoi le pitch? C'était quoi les idées?
C'est génial.
Qui les gens?
Quand on va sur votre site et qu'on remonte dans les vieux magazines, je pense que ça commence au numéro 10, quelque chose comme ça. Les couvertures, tu vois vraiment comment la maquette, comment le style graphique a évolué. Tu sens vraiment le style de l'époque, quoi.
Ouais, on peut pas mentir. On a des preuves vivantes de ce qu'on a fait et voilà. C'est vrai que chaque époque était un peu différente. La baseline du début, c'était, on parlait même pas de magazine, on parlait de journal. C'était le journal qui vous publie vous. Donc il y avait cette espèce de vocation, et dans les pages, en fait, le cœur de Kiblin tel qu'il est encore aujourd'hui, c'est les créations originales qu'on commande sur la thématique, puisqu'il est devenu thématique dans un deuxième temps. Dès le début, il y avait cette vocation là, et on invitait même les gens à nous envoyer. Donc il y avait toujours une part dans ce qu'on publiait. Il y avait en gros 50% qu'on allait chercher, 50% qu'on recevait via les gens. Ça nous arrive toujours hein, de publier dans les créations originales, de faire des commandes à des gens qui nous ont sollicité en nous envoyant un petit mail un jour. Voilà, mais il y avait vraiment cette volonté participative, on va dire, d'être là pour montrer ce qui se faisait, quoi.
Ouais. Et mais du coup, vous avez dû tous les trois en fait porter directement la casquette de directeur artistique, et donc du coup de choisir quelles images allaient être publiées, et vous aviez pas de formation à ce niveau, donc en fait vous êtes formé sur le tas en décidant vous-même de ce que le projet devait être à vos yeux, quoi.
Après, moi je suis toujours un peu dubitatif, je dis pas qu'il faut pas de formation pour ce truc de direction artistique, mais c'est que
oui, bien sûr, ouais. Une expérience, peut-être.
C'est plus une curiosité. une curiosité, un œil que tout le monde peut avoir. Enfin, clairement, voilà. Après, ça se travaille avec le temps, évidemment, voilà. Avec le volume de choses qu'on voit. Même si aujourd'hui, il y a peut-être un souci presque de saturation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en particulier sur les réseaux sociaux.
Ouais, d'accord.
Mais non, c'est, je pense, accessible à tous. Et il se trouve qu'on a, on s'est plus donné les moyens de le faire exister. C'est peut-être plus c'est ça qui est compliqué, je pense, c'est vraiment de mener un projet, de le faire naître et de le développer en partant de zéro, avec toute la complexité du début où personne ne vous fait confiance, où vous n'existez pas, on vous attend pas, clairement les gens ont pas forcément besoin de vous non plus, donc voilà,
c'est normal.
Donc
je pense que ta formation de journaliste a dû jouer aussi dans le fait qu'il y avait une vraie exigence éditoriale et artistique, que j'imagine que qu'il y avait besoin d'être, t'avais un bagage quand même sérieux. Enfin, j'y connais rien, j'ai pas fait des études de journalisme moi, mais j'ai un peu cette idée qu'on fait pas n'importe quoi.
Non, mais c'est ça qui nous amuse aussi, c'est cette espèce de puzzle un peu d'imbrication de choses. Travailler un chemin de fer de magazine, c'est un joli casse-tête, quoi. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comment on met des contenus ensemble et on les fait vivre ensemble dans une direction plutôt qu'une autre. Et le magazine, bon, après, sans rentrer dans le détail, mais il a pas mal évolué. On a eu un moment où c'était un atelier imprimé, donc on avait filé une espèce de métaphore de lieu qui serait le magazine papier, dans lequel on déambulait, on ouvrait des portes. Voilà, c'était un peu plus compliqué, on s'en est rendu compte aussi, c'était peut-être un peu trop conceptuel. Pour revenir à quelque chose de plus thématique, d'un peu plus lisible aussi, parce que le but c'est quand même de le partager, donc de pas mettre de côté. Que ça soit pas rendu trop complexe, c'est pas la vocation non plus de rendre l'illustration. Elle peut être complexe et elle est super intéressante quand elle est complexe, mais elle peut aussi être simple et parler très simplement.
Ouais, tu le mentionnais tout à l'heure que chaque numéro est thématique. C'est d'ailleurs un trait que tu partages avec une autre Lyonnaise, Anne-Bénédicte Schwebel, qui a aussi monté Maison Georges, hein, que tu connais sûrement. Ils ont un peu le même principe aussi. Donc, vous avez, dans le vos derniers, c'était un numéro monstre, cache, cover, poil. Et j'aimerais te demander comment vous pensez chaque numéro, comment vous le réalisez, comment vous arrivez à ces thèmes. Et puis, bon, c'est la question à 1000 points, comme demander lequel de tes enfants tu préfères, mais est-ce que tu as un numéro préféré et pourquoi?
Bah déjà, revenir sur le fait qu'on a la chance de travailler avec une équipe assez maintenant de 20-25 personnes qui participent un peu à le magazine, c'est l'objet sur lequel tout le monde participe, on va dire. Donc ça donne lieu à des grandes réunions. En général, on s'en va à la campagne ou voilà, pour réfléchir à nos thématiques annuelles. C'est un jeu plus qu'autre chose, mais c'est aussi voir.
Vous mettez vos kiffs, en fait.
Voilà, ce qui, c'est à la fois nos kiffs et en même temps ce qui nous semble être là, quoi, au moment où il faut en parler.
Un numéro de ChatGPT, hein. Ouais. Vous avez déjà fait un numéro à intelligence artificielle.
Non, mais là, du coup, c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé, donc peut-être qu'il faut qu'on trouve un angle un peu différent. Non, mais il y a un mélange de plein de choses. Rétrospectivement, je les ai pas tous en tête, mais si je devais en sortir un, je pense que c'est le numéro blanc qu'on a fait pour nos 10 ans, qui était une couverture complètement blanche, juste embossée, avec le magazine qui devenait un support d'expression pour qui le souhaitait. On avait fait un événement à la Gaîté Lyrique avec une cinquantaine d'artistes qui étaient venus intervenir sur la couverture en live devant le public avec un système de parrains marraines qui eux avaient travaillé sur des ateliers pour formaliser un petit peu contraindre un petit peu l'intervention du public sur la couverture. C'est vrai que ce numéro là était assez particulier, ne serait-ce que par sa blancheur complète. Mais non, mais ils sont tous bien, évidemment.
Il y a aussi la question du modèle économique. C'est-à-dire, j'ai bien compris, quand vous êtes lancé, vous y alliez voir les coiffeurs, les bouchers et tout pour trouver de la thune, pour faire vivre votre projet. Là, si j'ai bien compris aussi, vous avez l'agence permettait du coup de faire rentrer des ronds pour permettre au magazine d'exister. On le mentionnait au tout début, ça fait presque 20 ans que vous existez. Donc, des magazines pointus, des initiatives de gens passionnés et tout, il y en a eu pas mal qui ont pu exister. Mais vous, en 20 ans, vous êtes toujours là, going stronger. Mm-hmm. Et donc, on se demande du coup, c'est quoi un peu votre modèle
secret
économique
sauce.
Et puis il y a aussi eu les diverses crises, je pense à la crise du papier, enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées et voilà, vous êtes toujours là, c'est quoi un peu la secret sauce financière et économique de Kibler?
Bah, ça a pu être fragile à des moments hein, clairement, mais on a toujours remis ce qu'on gagnait dans le magazine, enfin dans le support papier.
Ah oui, c'est le principe, tu réinvestis même si tu te plantes un peu, tu réinvestis, tu continues à y croire et à pousser le projet.
C'était même pas, parce que sinon, enfin, c'était même pas de la stratégie, on va dire, consciente, c'est-à-dire, enfin, c'était même
oui,
pas.
Oui, mais c'est un principe. Ouais.
Mais on voulait le rendre le plus beau. Alors voilà, c'était le rendre le plus beau possible, en faire un objet vraiment spécial. Et dès qu'on pouvait, on réinjectait dedans. Là, le magazine dans. En gros, il s'autofinance à peu près dans ses frais de production, impression, diffusion, fabrication, diffusion. C'est clairement l'agence qui porte, on va dire, plus les frais liés aux personnes qui travaillent sur ce projet, parce que effectivement, c'est fragile. Le moment où on n'avait pas vraiment l'agence et on avait que ce magazine qui était financé par les publicités, je vois effectivement la problématique du papier. Là, quand il y a des coûts qui augmentent de 50% dans l'année sur le papier,
ouais, c'est ouf.
Avec un tirage à 20 000 exemplaires comme on a, enfin c'est ça impacte considérablement le coût du jour au lendemain. C'est évidemment compliqué. Enfin, on le voit, il y en a beaucoup qui remettent un peu en question leur. En mode, après, ça va aussi avec des problématiques écologiques. Je pense que réinterroger le papier aujourd'hui, c'est pas non plus inutile. Faut trouver le bon équilibre. Mais ouais. Mais voilà, en ce qui concerne le modèle économique, c'est ça. C'est à peu près un magazine qui s'autofinance dans ses frais de production. Sachant que les frais de structure, c'est l'agence qui les porte, quoi.
Et vous êtes jamais essoufflé? T'as jamais eu envie de dire, bon, on a fait une, je sais pas, moi, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, de dire, bon, on a fait un joli petit bout de chemin, ça ne rapporte pas un rond, mais maintenant on a une agence, un atelier, on a plein de projets, ça a été une rampe de lancement, et puis, on va de l'avant.
Bah, ouais, qu'est-ce qui fait que le magazine continue?
Bah, le jour où on arrête le magazine, on arrête Kibland, je pense, simplement, hein. C'est aussi simple que ça pour nous, je pense.
Ok.
C'est radical, hein, mais c'est...
C'est la condition d'existence et la condition d'exister, quoi, tout simplement. Enfin, c'est ça qui nous éclate. Après, il y a plein de projets qui nous... Mais tout est lié, en fait, tout est corrélé aux médias, alors magazine, papier et puis digital, parce que, bon, pour l'instant, c'est encore assez balbutiant, mais on aimerait bien développer une version digitale du média qui vient de magazine. Pour l'instant, c'est uniquement sur Instagram, mais voilà, on aimerait bien développer d'autres supports, se reprendre la tête un petit peu pour travailler sur des formats un peu différents, etc. Donc c'est un enjeu pour après, mais non, c'est pour nous, c'est ça nous permet de nous poser un milliard de questions et de le partager aussi avec toute l'équipe. C'est ça qui est important, quoi.
Ouais. Du temps de mes études, il y avait deux magazines que je kiffais à mort. C'était Étape Graphique et Clark Magazine. Et alors c'est drôle parce que Étape, tous nos profs nous disaient, faut que vous vous abonniez. Moi, j'ai fait des études de communication visuelle. Hein,
pardon, il devait toucher des.
J'étais au Beaux-Arts en Belgique.
Toucher des intérêts.
Donc ouais, c'était ça. C'est abonnez-vous à Étape Graphique, c'est bien. Puis à côté de ça, moi, je t'avoue que je préférais Clark Magazine, que je trouvais plus accessible. Et je trouve que Kibland, j'ai l'impression que c'est un peu au milieu. Tu vois, genre, j'ai parfois eu l'impression que je trouvais Kibland parfois un petit peu trop élitiste ou parfois un peu inaccessible, alors que pourtant, bon, l'illustration, tout ça, c'est un truc qui me parle et je suis dedans depuis une dizaine d'années. Enfin, je dessine depuis que je suis petit et puis la culture graphique et tout. Mais ouais, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est un petit peu...
Je pense que c'est lié peut-être au choix qu'on a fait d'une certaine illustration, peut-être par excès à un moment donné aussi, mais qui était via les gens qu'on a pu rencontrer et côtoyer au quotidien, qui étaient des artistes, enfin qui sont des artistes illustrateurs de talent, mais qui sont qui défendent aussi peut-être une illustration un peu plus intellectuelle, je sais pas. C'est peut-être un peu lié à ça.
C'est quoi l'illustration intellectuelle? Vas-y, développe, c'est rigolo.
Non, je sais pas. Après, on sait qu'il y a un peu des...
Bah non, mais c'est une question aussi de par rapport au lecteur. Est-ce que c'est suffisamment accessible pour du grand public, ou est-ce qu'il faut être un petit peu justement concerné par le sujet pour entrer dedans? Après, l'art, il parle aux gens ou il parle.
On est un peu tiraillé entre
ça.
Les deux, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que le but, c'est de profiter de la gratuité pour se permettre aussi parfois d'être un peu exigeant, on va dire. Et peut-être que parfois on se plante aussi parce que on complexifie trop les choses. C'est clairement.
C'est
possible,
un beau laboratoire. Parce que même s'il y a un petit côté club privé, moi ce que je trouve génial aussi dans le projet Kiblinde, c'est qu'il y a un côté punk, parce que en tout cas avec la nouvelle formule graphique, on revient vraiment au principe du fanzine, et sans complètement décomplexé, et puis on n'hésite pas justement à mettre des illustrations qui sont un peu plus dures, mais qui vont peut-être parler à des gens qui s'y attendaient pas, et du coup c'est aussi une ouverture culturelle, une ouverture artistique, puis un dialogue aussi qui commence à s'établir aussi avec le public, puisque Kiblinde ne fait qu'être de plus en plus connu.
Ouais, ça c'est un travail du coup qu'on mène avec Elora, qui s'occupe en particulier du magazine, et puis de Maxime Guignot aussi, qui est avec nous dans le comité éditorial sur le choix des artistes qu'on met en avant. C'est vrai que c'est parfois il y a débat aussi entre nous, mais c'est aussi des couleurs qu'on veut mettre à des moments, des choses qu'on veut partager, effectivement des peut-être des pattes un peu plus dures, c'est on a l'impression que Kiblinde, souvent on nous dit quand on voit quelque chose, on a l'impression que c'est une couleur, qu'il y a des couleurs Kiblinde, quoi, qu'il y a un truc qui se passe à cet endroit-là.
J'aime beaucoup ce mot.
C'est quoi la couleur Kiblinde?
Je sais pas, je pense que si on veut faire un raccourci vraiment très très rapide, c'est sans doute lié à un genre d'impact immédiat de l'illustration, mais c'est sans doute les couvertures, enfin les gens ont en tête les couvertures. Et ça fait partie du cahier des charges d'une couverture. C'est la seule chose qu'on.
Oui, il y a. Vous adorez le plein pot, quoi. Il y en a souvent.
Ouais,
c'est souvent le choix.
Après, c'est les artistes qui décident. Hein. Vraiment, on essaye de donner le moins de contraintes possible aux illustrateurs et aux illustratrices qui participent au magazine, puisque le but pour eux, enfin pour nous, c'est qu'ils s'expriment tels qu'ils sont.
Oui, ce qui est le motto du fanzine au départ, ouais. Quoi, d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'on a souvent des choses très impactantes. Donc c'est peut-être ça. Et puis on aime bien les tons directs aussi, donc
Pète.
Oui, ouais, ça pète. Ah oui, le ton direct, c'est quand même c'est ce qu'il y a de plus chouette, ça, c'est.
Du coup, vous faites pas mal rêver les illustrateurs, les illustratrices, c'est
oui.
Comment on fait un peu pour être publié chez vous, pour travailler ou être mis en avant dans Kiblinde? Je pense que c'est une question que pas mal de personnes dans la profession se posent.
Simplement d'exister, en tant qu'artiste. Et après, faut pas hésiter évidemment à nous envoyer des petits messages. Ça marche quand même, hein, par mail ou sur Instagram.
Vous en recevez beaucoup? Genre, coucou, j'existe, voilà ce que je fais.
Ouais, on en reçoit quelques-uns.
Quelques-uns.
C'est normal, et c'est très bien, quoi. Après, c'est vrai que, encore une fois, aujourd'hui, il existe des moyens de montrer son travail. Avec les réseaux sociaux, parfois il y a pas que ça. J'aime bien aussi, nous on aime bien aussi les salons d'édition. On parlait de Nîmes Illustre ou de petits festivals qui permettent aussi d'aller voir sur des marchés des fanzines, sur le off à Angoulême. Enfin voilà, de pouvoir être au contact des gens et du papier, de voir. Physiquement, ça peut être aussi un bon complément à l'existence digitale, on va dire.
Ouais. Et aussi le niveau gratuit. Pourquoi avoir gardé la gratuité jusqu'au bout? C'est vachement couillu comme choix, je trouve.
C'était l'idée de départ, quoi. Si on enlève la gratuité, on casse le projet tel qu'il a été pensé, parce que c'était vraiment de pouvoir. On aimait bien. Alors bon, c'est un peu romantique, mais on aimait bien l'idée d'avoir un magazine comme on aimait pratiquer ça, c'est-à-dire dans un bar, tu tournes la tête et tu vois quelque chose et tu le prends et il y a une rencontre, quoi. Et Et là, tu rencontres quelqu'un ou une personne, une illustratrice que tu connaissais pas, et ça va te donner envie d'aller plus loin, d'aller chercher des bouquins, de créer des accidents comme ça. Dans l'idée, c'est ce qu'on souhaitait. Alors aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça, parce que on est dans certains endroits plutôt que dans certains autres. Ça serait mentir de dire qu'on choisit pas les endroits où on est. Mais dans la philosophie, c'est vraiment de pouvoir susciter des accidents comme ça, et que des gens qu'on connaît pas puissent tomber amoureux d'une image en ouvrant le magazine, quoi.
Ouais. Alors moi, ma culture graphique, justement, moi, c'était les magazines, mais à mort. Juxtapose, Clark, Étape, puis plein d'autres. C'était vraiment, j'étais boulimique, quoi. Comme tu disais, entre guillemets, il n'y avait pas Internet comme on le connaît aujourd'hui.
Bah, c'est ça,
c'était
pas
une porte.
Il fallait aller chercher un petit peu.
Ouais, c'était un peu une culture, un peu underground.
Ça se mérite.
Je les attendais, ces magazines. C'était vraiment, mais c'est, voilà, ouais. Maintenant, le magazine, j'ai l'impression que c'est plus comme avant, quoi. On a tellement accès à tout le temps.
Ouais, on a l'impression que c'est un peu un objet de luxe, en fait, qui a le mérite de continuer à exister, et justement qui doit être pensé comme un produit quelque part de luxe, même si on a aussi intérêt à ce qu'il soit populaire. Et je trouve que le côté laboratoire de tout ça dans l'ère du temps qu'on vit actuellement est super super intéressant, parce que ça pose énormément de questions. Notamment, on a parlé de la question du modèle économique, on a parlé de la question, en fait, de la visibilité aussi des auteurs, et puis le fait aussi que le projet doit continuer à vivre, parce que comme tu as dit, si Kiblin doit s'arrêter, ça quelque part ça tue peut-être votre écosystème.
Moi, j'ai ce même rapport au magazine que j'avais avec les albums de musique, c'est-à-dire que je me rends compte que les artistes, autant musicaux que visuels que cinématographiques d'ailleurs, ceux qui m'ont vraiment marqué, c'est parce que j'avais acheté des magazines ou parce que j'avais acheté les albums et que je lisais les bouclettes. Moi, je vois qu'aujourd'hui, où tout est dématérialisé, il y a certains artistes que j'aime bien, mais qui m'ont beaucoup moins marqué parce qu'il n'y avait pas cette recherche intentionnelle, il n'y avait pas ce côté immédiat de l'accès à l'information. Donc, en fait, je suis vraiment devenu fan, et voilà, j'ai 34 ans aujourd'hui. Ben, la majorité de mes références, bon, c'est peut-être aussi un peu un discours de vieux, des années fondatrices, tu sais, de ce qui t'a formé, quoi. Mais je pense vraiment qu'il y avait ce truc d'aller chercher l'info et de prendre le temps de lire et tout. Ouais, c'est vrai, c'est un discours de vieux.
Mais cela dit, tu les as plus chez toi, tous ces objets-là, tu vois, maintenant.
Moi,
je parle pas de ceux-là, je parle de maintenant, en fait, si t'aimes un artiste, etc., le vois sur les réseaux, ou tu télécharges une musique, si toi, tu fais pas toi-même la démarche de dire, putain, est-ce qu'il a sorti l'album en physique ou pas, en fait, t'as plus la collection chez toi.
Les groupes de musique,
on a changé de monde.
Bon, alors, ça fait un peu,
mais voilà, non, mais c'est pour, quoi, c'est mais... pour dire, hein, faire, voilà, faire un magazine sur le type d'Inde, c'est, je trouve qu'il y a un certain mérite, et puis un engagement, quoi, qui est pas anecdotique.
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Jérémy?
Après, je sais pas, sur l'utilité, je crois pas forcément, mais c'est, et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse une trace de quelque chose qui s'est passé. C'est sans doute ça le plus intéressant, c'est de voir ces illustrations vivre avec le temps sur un format papier. Alors, c'est pareil, c'est sans doute une question de génération sur l'amour du papier, l'amour du print. Sans doute que on va réussir à transvaser ça sur le digital.
Enfin, quoi qu'en même temps, beaucoup d'illustrateurs, d'illustratrices, vivent aussi grâce à ce qu'on appelle les shops, hein, et donc du coup, ils doivent créer justement de l'objet matériel. Et il y a un gros retour finalement de l'impression, notamment grâce à la Rhino.
Ouais. C'est vrai que être au contact d'un objet physique, c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Et encore plus pour les livres. Alors, on a sorti quelques bouquins qu'on avait, les Super Kidland, qui sont une compilation annuelle.
Oui.
Ou Square, là, qui est un projet qu'on a développé sur Instagram. Donc là, c'était assez rigolo de penser un support sur Instagram,
ouais, c'est
et de l'amener en print après. Ouais, donc c'était un peu le processus inverse. Mais on avait quand même bien envie d'en ressortir un objet papier, quoi. Même si ces petits carrés dans le carré, à la base, c'était que sur Instagram.
Donc
les super kiblam, ça me faisait trop penser au recueil de Spirou, tu sais, genre vraiment les gros.
Ouais, c'est ça, t'as un méga un méga pixou.
Ouais, méga pixou, un mini Spirou. Et ça doit être aussi une sacrée aventure, ça, quand même, l'aspect maison d'édition, comme si vous n'aviez pas suffisamment sur la patate de choses à gérer. Et vous lancez dans voilà ces reportages.
Ah, parce que là on parle de déséquilibre.
Des livres d'artistes, des BD.
Alors ouais, dans l'envie, on voulait faire ça. On voulait vraiment faire une maison d'édition. Je pense qu'on peut pas vraiment dire qu'on en ait une parce que ça nécessiterait d'avoir un vrai catalogue et d'y consacrer un temps beaucoup plus conséquent que ce qu'on fait. Et c'est un vrai métier, il y en a qui le font très bien. Et nous, c'est des petits accidents, mais c'est des petites choses qu'on se permet de faire de temps en temps.
Vous attendez pas de projet, quoi. C'est vous qui décidez le moment où ça passe à l'action de l'édition, mais vous attendez pas de projet en soi.
Ouais, voilà, ça peut être des opportunités comme on a fait avec Jean-Julien sur le bouquin sur lui et son frère, ou là sur Square où on va développer le projet en print à partir du digital. Ou le Super Kiblinde, ou les Imagiers, qui sont des petites compilations d'illustrations existantes sur des thématiques qu'on va raccrocher des images à une thématique qu'on a choisie et écrire les textes par rapport aux images. C'est plus des envies, mais c'est pas, on n'a pas encore le temps de travailler un vrai catalogue avec plein d'auteurs qu'on aimerait pouvoir imprimer. Mm-hmm.
Tu peux nous parler de ça? Azur, avec Simon Bournel et Maxime Gognaud, justement, ça c'est un très bel objet, c'est une superbe bande dessinée.
Ouais, carrément. Bah ça c'est les débuts justement de la maison d'édition qu'on avait fait avec eux, Maxime et Simon, qui étaient dans le magazine à l'époque et qui avait un projet qui s'appelait En Diagonale, qui a été le premier ouvrage qu'on a sorti et qui est ils ont continué l'aventure d'En Diagonale avec Azur où En Diagonale, c'était la Diagonale du Vide, donc ils traversaient la Diagonale du Vide et puis ils allaient à la rencontre des gens en dessinant un petit peu toutes ces rencontres. Et Azur, c'était le même procédé, ils sont partis tous les deux plusieurs jours sur la Côte d'Azur dans des endroits différents, rencontrer ces endroits qui, hors saison, ont une vie autre.
Et comme la Grande Motte.
Exactement. entre le documentaire et le livre, avec un format assez particulier. Mais qui était, du coup, c'était tiré de réflexions aussi liées au magazine. C'est aussi là où on s'est rendu compte que c'était difficile d'être une maison d'édition parce que il faut diffuser les livres, il faut en parler, et ça prend du temps et c'est un vrai travail de défendre des bouquins au quotidien. Donc ça peut être ce genre de choses là aussi. Enfin, on s'interdit rien, mais c'est vrai que d'avoir une vraie maison d'édition au sens avec un vrai catalogue, on peut pas dire qu'on le soit vraiment encore, quoi.
Donc, si je comprends bien, l'agence, c'est le poumon économique de Kiblinde. Le magazine, c'est genre
c'est
le projet de cœur depuis toujours. Voilà. C'est le projet historique. On lâche rien. Et puis, il y a les petits kiffs à côté, les livres ou les objets graphiques, les affiches, l'atelier. Et grâce à ce poumon économique, vous pouvez continuer de vous faire plaisir, de continuer de mettre des artistes en avant.
Il y a la trésorerie,
vous faire des bœufs à vous.
Enfin, après, juste pour peut-être dire un mot aussi sur l'agence, c'est que l'agence, on essaye d'avoir la même exigence, la même passion que sur le magazine. C'est-à-dire que
ça se voit.
Faut rappeler, c'est 20 personnes, hein, c'est ça?
Ouais, on est plutôt 25 maintenant, mais on a un bureau à Paris et un bureau à Lyon. C'est des équipes qui sont globalement mélangées, hein. On travaille sur les différents projets, mais on essaye sur l'agence d'apporter. Souvent, on vient nous voir pour des choses qu'on a pu faire, et ça peut être le magazine. Donc c'est à la fois une prise en compte des choses éditoriales ou de construire un propos un peu différent, et puis travailler en lien avec tous ces illustrateurs et illustratrices de talent qu'on a la chance de côtoyer via le magazine ou via l'atelier. On a la chance de travailler avec eux sur des projets qui sont effectivement plus rémunérateurs, mais qu'on essaye de faire en sorte que ça soit pas non plus des projets, que ça reste des projets intéressants.
Ah bah oui, et je vais faire du name dropping. Hein. Il y a notamment Kiblinde bosse pour Arte, Adobe, la Cinémathèque française, Headbanger, Les Arocs, Canal+, Le Coq Sportif, La Villette, le Palais de Tokyo. Enfin voilà, c'est des beaux clients, quoi.
Oui, historiquement, c'était beaucoup des clients culturels et institutionnels. Par la vocation du magazine, tout simplement. Et puis ça s'est un petit peu élargi aujourd'hui à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le médium de l'illustration parle à d'autres gens aussi, et puis il y a des secteurs pour lesquels ça, l'illustration en tant que telle représente une vraie respiration, quoi, par rapport à ce qui peut exister. Pas parler des banques d'images, mais voilà, enfin c'est vrai que ça permet d'avoir autre chose quand même.
Bah, on peut parler de Socialterre en fait, parce que vous avez repris en fait le design graphique du magazine. Et moi j'ai bossé pour Socialterre il y a quelques années, donc j'ai bien connu leur évolution. Et alors c'est un magazine, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magazine qui s'intéresse justement à la face un petit peu mise sous silence de notre société. Ils attaquent des sujets qui sont très forts, très très porteurs. Et donc c'est un magazine engagé. Et du coup, en fait, ils ont fait appel à vous pour avoir justement un design graphique engagé également. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure, parce que je trouve que c'est un vrai cadet, quoi.
Alors, Socialterre, on a travaillé avec eux sur les hors-séries, plus précisément. On en a fait 3 avec eux. On a effectivement repensé la maquette et la façon dont était construit le hors-série d'un point de vue artistique, on va dire. Et depuis, ils ont eux-mêmes fait évoluer le support. On travaille plus avec eux. Ils ont internalisé la direction artistique parce que c'était compliqué de travailler à la fois à distance et pour eux, c'est quand même vraiment, je pense, utile d'avoir quelqu'un en interne pour débattre et échanger sur les problématiques de mise en page et de construction du hors-série. En tout cas, c'était hyper intéressant de travailler là-dessus et de pouvoir nous a donné la chance ils nous ont écouté en plus de pouvoir travailler ça comme un vrai objet éditorial et artistique en tant que tel, avec une large part donnée à l'illustration, évidemment.
Ouais, voilà, ouais.
On aimait bien pouvoir, par exemple, au-delà, donc c'était séquencé en 3 parties avec 3 illustrateurs et illustratrices différents, mais c'était aussi d'avoir un compagnon illustré qui était là tout le long du, parce que le magazine est un peu dense quand même.
Oui.
Donc on a créé des chimères qui accompagnent le lecteur tout au long des rubriques pour essayer d'amener des respirations et un peu de sympathie en parallèle de textes qui sont très intéressants mais très denses. Ouais. Donc voilà, ça faisait partie d'une réflexion plus profonde sur la mise en page, et c'était une super expérience. Ouais.
Moi, je me souviens que, je sais que les magazines où il y a vraiment un soin particulier donné au graphisme, où il y a la part belle aux illustrations, moi, ça vient tout de suite me parler. Et tu vois, Socialterre, à l'époque, ils avaient fait un numéro spécial freelance il y a un an ou deux, je sais plus. Et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, et je me souviens que ça m'avait tapé dans l'œil, justement, notamment le côté, l'aspect graphique. Et c'est drôle parce qu'en préparant cette interview, en allant voir justement vos créations avec l'agence, je me suis rendu compte que vous étiez derrière beaucoup de projets de com illustrés que j'avais appréciés, que ce soit, tu vois, un petit peu la louche, j'avais noté Socialterre notamment, mais aussi le Paris des libraires, le petit magazine Crowd de Kiss Kiss Bank Bank, quand je m'étais vachement intéressé à ça. Il y avait toute la com autour de Paris Plage ou Flush. C'est tous des événements ou des magazines que j'ai soit acheté ou auxquels j'ai participé parce que la com m'avait tapé dans l'œil. Puis c'est drôle parce que de se rendre compte que c'était vous qui étiez aux manettes, en fait.
C'est gentil.
Mais comme quoi, hein, l'illustration apporte vraiment... Bon, j'ai peut-être cette sensibilité-là également. Donc, je suis typiquement le genre de mec, tu vois, qui, dans le métro, va se pencher pour regarder en tout petit qui a fait l'illustration, tu sais, d'une affiche. Truc que personne s'arrête, hein, mais moi, j'observe ces...
C'est vrai qu'il trucs. Est comme ça.
Je pense même qu'il y avait... c'était quoi à l'époque? C'était Stupéflip. Bon, ça, c'est vraiment... Je nerd de 2 secondes, mais ils avaient... fait une affiche dans le métro pour leur nouvel album, et ils avaient mis une petite blagounette du genre, si toi aussi tu regardes ces crédits, en gros, ils faisaient vraiment un clin d'œil aux personnes qui s'arrêtent pour regarder, quoi, tu vois. Enfin, bref. Tout ça pour dire, c'est chouette que tout cet aspect un peu illustré. Alright. Je pense qu'on a fait un petit tour un peu de la maison. ce serait peut-être un petit peu le moment des questions des auditeurs.
Il y avait une question qui était quand même intéressante. Je ne sais pas si on l'a posée, Jérémy, c'est que viennent chercher les clients en travaillant spécifiquement avec Keyblind. Et moi, ma question, c'est surtout en quoi le magazine est justement vecteur de crédit et puis d'envie pour ses clients.
Ben, je pense que ça rejoint un peu les deux aspects qu'on disait tout à l'heure. C'est évidemment la chose illustrée, c'est souvent par là qu'on vient nous chercher, c'est-à-dire par le prisme de l'illustration, mais aussi et souvent sous l'angle du format et de la réflexion qui peut aller de la stratégie de communication, hein, parce que c'est une stratégie, c'est un schéma finalement, c'est un format, ouais. À des objets éditoriaux. Qui peut être, par exemple, en ce moment, on travaille pas mal sur des livres anniversaires pour des entreprises ou des choses comme ça, où ils veulent retrouver une espèce de spontanéité, de liberté dans la manière d'aborder des sujets et comment on le construit, et là, on retrouve cette envie qu'on a, nous, de réfléchir un peu, de problématiser, en fait, quoi. Et c'est ce qui nous fait plaisir aussi dans le côté agence, quoi.
Et est-ce que certains clients viennent spécifiquement pour un illustrateur, une illustratrice qui sont vus dans Keyblind et du coup ils vous demandent de faire un combo, quoi?
C'est assez rare parce que dans ces cas-là, je pense qu'ils s'adressent directement, ils ont bien raison à l'artiste parce que.
Et parce que vous n'êtes pas des agents d'illustrateur.
Non, du tout,
des agents,
ouais.
Donc c'est plutôt, on vient nous chercher plutôt pour essayer de conseiller à quel endroit on pense que la personne doit ou peut se mettre, ou sur quelle iconographie, quelle patte, quel travail, quel imaginaire, voilà, pour chacun. Et c'est vrai que chaque histoire est différente. Donc.
Tu crois que en 2023, il y aura encore de la place pour justement des initiatives comme la vôtre qui font la part belle justement au magazine, au papier, parce que bon, on a l'impression que c'est tellement saturé que c'est un peu la guerre pour attraper l'attention de tout le monde. Ouais, qu'est-ce que tu en
penses? Que oui, il y a toujours de la place, et puis la place, faut la prendre, hein, non, mais il y a de la place. Après, c'est vrai que c'est compliqué sur les données économiques, on en parlait tout à l'heure, sur le papier, sur la fabrication, les matières premières.
Il faut être prêt à l'aventure quand même. Voilà, il y a la place pour créer, ouais. Mais après il faut pas être.
C'est vrai que l'objet de print en tant que tel est plus compliqué à travailler aujourd'hui, je pense. Mais c'est vrai qu'on a vécu l'âge d'or du gratuit, et c'était pas forcément génial non plus. Hein. Il y avait des kilos de papier qui étaient jetés devant les arrêts de métro. Ça régule d'une certaine manière. Après, c'est vrai que sortir une revue aujourd'hui, c'est pas simple.
C'est clair. C'est quoi un peu vos nouveaux horizons? Vous avez envie de développer Keyblind où? On parlait en off, je pense, tout à l'heure du festival Keyblind, ou est-ce qu'avec le virage numérique, vous avez des nouvelles envies?
Et on a trois, pas mal de projets. On a un des trois associés, du coup, Gabriel, qui s'en va à Montréal, là, dans 15 jours. Donc Montréal, nous arrivons. Voilà, on va essayer de lancer Keyblind là-bas, donc sur la partie magazine, média, et puis aussi sur
World Invasion,
sur une boutique sur place. Ouais. Donc ça, c'est une vraie envie, et au-delà de ça, c'est l'internationalisation, qui est un gros mot, mais on est parti pour essayer de lancer le magazine en langue anglaise pour le diffuser un peu au-delà des pays francophones. Donc on aimerait bien tester ça l'année prochaine, en 2024. Et puis oui, on a ce festival qui arrive en début octobre prochain aux Subsistances à Lyon, qui s'appelle IF pour Illustration Festival, tout simplement, dont on va commencer à dévoiler un peu la programmation à partir de la semaine prochaine.
Allez, une petite excuse. L'épisode sortira. L'épisode sort demain, non, pardon. Ouais,
Oui, sort demain.
Une petite excuse, ça va être. L'idée, c'est un peu un magazine en festival, hein, mais c'est de montrer que l'illustration est vivante, avant tout. Et du coup, qu'il faut venir voir ce que ça donne en vrai. Ça sera gratuit et il y aura plein d'artistes invités internationaux. L'idée, c'est d'essayer d'inviter un maximum de gens aussi au-delà des frontières françaises, même si il y aura un tiers d'illustrateurs français, mais c'était aussi d'en faire un moment, un rendez-vous pour rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément la chance de voir, de croiser, voilà. Et puis comme on avait fait à la Gaîté Lyrique où on avait fait intervenir les artistes sur le support magazine, là il y aura un support dédié sur lequel les artistes vont intervenir en live, donc ce qui permet d'aller à la rencontre aussi des pratiques de chacun et de chacune et de se rendre compte du travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière toutes ces illustrations.
Ben oui. Et puis c'est aussi cohérent avec votre désir d'expansion, justement, à Montréal, pays anglophone, de les faire venir, de se faire rencontrer tout ce petit monde. C'est vachement ambitieux de vouloir aller toucher les pays anglophones, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a énormément d'initiatives déjà et une culture graphique très forte. Évidemment, il y a la French Touch que vous allez apporter.
Ouais, puis c'est un savoir-faire aussi que tu exportes. Ça, ouais. C'est intéressant.
Mais je trouve, enfin, comment dire, je me pose la question. Tu me diras ce que t'en penses, Jérémy, mais que justement, j'ai l'impression que dans les pays anglophones, il y a vraiment pléthore d'offres et que c'est ce qui rend la chose riche ici. Tu vois, une initiative comme Kiblind, c'est que voilà, c'est moins bouché, même si ça le devient peut-être de plus en plus. Et donc, du coup, pourquoi ce désir d'aller de l'autre côté de la planète si vous avez déjà une bonne place ici et que de l'autre côté, on vous attend pas?
Bah, toujours pareil, par curiosité et parce que c'est des esthétiques qui nous parlent aussi et c'est aussi des rencontres. On discute pas mal avec des gens, effectivement, des États-Unis. On a un public qui nous suit un peu plutôt sur les réseaux sociaux puisque le magazine est français donc voilà, mais on le voit aussi sur les posters. On a beaucoup de gens aux États-Unis qui nous achètent des posters. Donc on va voir, c'est essayer aussi d'aller à la rencontre de ce public-là. Et peut-être que c'est vrai que t'as raison, on va peut-être pas tout à fait parler le même. On le voit en termes d'illustration, hein, c'est des codes un petit peu différents, mais voilà, pour l'instant c'est Montréal et ça va être un peu le côté, on aura un peu les deux côtés, on aura le côté francophone et puis le côté ouvert quand même sur l'Amérique du Nord. Ça nous permet un petit peu de voir comment ça se passe là-bas et puis d'aller à la rencontre de nouveaux talents sur place aussi, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a des écoles et des écritures culturelles. Moi, je sais que j'ai été très abreuvé de culture anglophone dans ma culture graphique. Et des personnes qui ont vraiment un peu l'œil aguerri m'ont déjà dit, mais oui, en fait, toi, t'as un style anglais, plus anglophone. Et c'est vrai que j'ai toujours parfois eu un petit peu de mal à me retrouver dans, je sais pas comment dire, l'école française ou dans les attentes, par exemple, des DA français où il y a une vraie attente dans un style à la française dans laquelle, quelque part, je fit pas entièrement. Après, il y a la mondialisation, il y a le monde devient un petit village, donc on est de plus en plus ça devient une grande soupe, quoi. Mais pourquoi pas aller Non, t'as raison, ça faudra que vous participiez à des festivals là-bas aussi.
Ouais, pour l'instant on va y aller tranquillement, regarder un peu comment ça se passe, et puis voilà. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est de pouvoir développer le projet là-bas pour enrichir encore tout ça, quoi.
Vous allez embaucher là-bas pour l'équipe?
Oui, il y aura sans doute des postes à venir là-bas, ouais, carrément.
Si vous nous écoutez à Montréal, il y a du taf chez Kiblind. Alors, pour terminer, on a quelques petites questions. Donc, il y avait Émilie qui disait beaucoup de liberté assumée dans tous les concepts de Kiblind. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour des publications papier plus liées à des rêves et des convictions que des démarches stratégiques et commerciales qui suivent les modes du moment? On t'a déjà un petit peu répondu à cette question.
Ouais, bien sûr, surtout que c'est a priori ce genre de publications-là qui peuvent amener quelque chose, je pense, en n'avançant pas par rapport à des contraintes économique, mais juste par la volonté éditoriale de ce qu'on veut raconter, quoi.
Ouais.
On le voit aujourd'hui, hein, y a beaucoup de revues, alors plus des revues payantes, hein, mais qui s'adressent à des communautés et qui trouvent un public par le propos, en fait, quoi.
Ouais. Start with why, Simon Sinek. C'est pas juste juste des belles images, mais qu'est-ce que vous dites? D'ailleurs, oui, si on devait résumer le why, le pourquoi de Kiblind, c'est quoi exactement ce que vous voulez dire? C'est quoi votre pourquoi?
C'est quoi notre pourquoi? Notre pourquoi, c'est de montrer que l'illustration peut être un moyen d'expliquer le monde dans lequel on vit. Voilà.
Et boum. Ah, c'est beau, ça. Il y avait une question de encore un Clément. Bon,
c'est toujours le même, hein. Il dit encore un Clément, mais c'est toujours le même Clément.
Oui, oui. C'est la nerderie. Il dit, alors déjà, il nous avait dit, bon, t'as déjà répondu à cette question, mais je te la fais parce que c'est un petit mot gentil.
C'est fabuleux, ça, il va adorer. Le voilà.
Je me souviens quand j'étais étudiant en graphisme à Lyon, 2005-2008, c'était trop cool de tomber sur un Kiblind dans les bars en buvant une bière quand on sortait des cours, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais.
T'as gagné.
Ma question, j'ai jamais compris comment ils finançaient les tirages à l'époque. De mémoire, il n'y avait pas de pub et ça devait coûter assez cher à imprimer. Pas mal de pages, impression offset bien quali dans mes souvenirs. Et à ma connaissance, ils ne vendaient rien. Je sais pas si tu veux préciser un truc.
Ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Alors, il n'y avait pas de pub, il y en avait forcément un peu et c'était complété par ce pass culturel, quoi. C'est-à-dire que pendant quelques années, c'était une vraie béquille financière pour pouvoir sortir le magazine.
Ouais. Et après, il rajoute, et aussi, j'ai le sentiment, mais ça peut être un biais de ma part, dit-il, qu'à l'origine, Kiblind était plutôt centré sur le graphisme expérimental que sur l'illustration, alors que maintenant, c'est clairement axé élu, avec un gros accent graphique quand même. Ce serait intéressant d'en savoir plus sur cette évolution, si c'est pas moi qui me fais des films.
Oui, c'est ça. Au début, c'était plutôt art graphique et illustration. Et puis, avec le temps, on a transformé le graphisme dans la maquette et... on est resté plutôt sur l'illustration parce que c'était déjà très vaste comme champ à diguer et du coup, on s'est concentré là-dessus, quoi.
Trop bien. Est-ce que vous avez encore des toutes dernières questions? Mettez-les dans le chat. C'est pas tous les jours, vous pouvez parler avec Jérémy quand même. Enfin, ce Jérémy-là. Jérémy, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, Jérémy?
De continuer à s'amuser.
Vous voyez vraiment, voilà. Vous voyez encore genre vraiment longtemps, ce serait charmé quand même.
On n'a pas, enfin disons qu'on, alors je sais pas, je vais parler à titre personnel, mais pour l'instant je m'imagine pas sans, oui, effectivement. Mais sans doute un jour il faudra se poser la question. Oui, mais... Non, on n'a pas vocation, c'est pas un projet, c'est vrai que c'est un projet qu'on a créé toute pièce entre copains. Avec une équipe incroyable aujourd'hui, on a du mal à.
Et encore cet esprit copain, un peu.
Oui, de fait, puisqu'on travaille entre copains. Donc.
Ouais. Non, mais c'est beau. Je veux dire, ça, vous étiez trois il y a 20 ans, vous bossez encore toujours ensemble. C'est.
Ah bah ouais, c'est après génial, c'est comme quoi. Des.
Ah oui, c'est une aventure. Hein.
C'est une aventure dans tous les sens du terme. Donc, on est content de participer à cette aventure en tout cas.
Il y a quelqu'un qui avait mentionné vos petites playlists Spotify.
Carrément. Big up et Laura qui s'occupait de ces playlists qu'on a dû arrêter à un moment donné. Peut-être elles reviendront.
Il y a Jeanne qui dit on veut tous devenir copains avec Kiblind.
Venez au festival pour devenir copains.
Exactement. Il y a les informations du e-festival. Quelqu'un disait qu'il les trouvait pas.
Non, parce qu'on sort, on l'annonce, on fait un petit teaser vendredi et ça sera annoncé lundi prochain. Ouais.
Bah donc, patientez un tout petit peu.
Super.
Moi, j'avais une petite question, peut-être la question de la fin. Est-ce que toi, Jérémy, t'as conscience en fait de l'impact que Kiblind a eu au moins depuis ces 10 dernières années sur le monde de l'illustration et sur en tout cas la profession d'illustrateur et d'illustratrice.
J'aurais pas la prétention de dire que ça a eu un impact. Je pense que ça fait partie d'un environnement qui est là, mais de là à dire que ça a un impact, non, je pense pas.
Je pense que Kiblind est quand même un acteur important, tu vois, de ce qui se passe en ce moment en illustration au moins sur le territoire francophone, et c'est super que ça émerge et que ça rayonne ailleurs également. Et on te le dit parce qu'en fait on a quand même nos auditeurs et nos auditrices qui ils te le disent, hein, tu vois, dans le chat. J'ai pas de questions, mais je trouve ça génial. J'adore Kiblind. Et voilà, c'est une réalité. Kiblind, c'est voilà, quand on en parle, les gens font ah, des grands yeux, ils sont super contents qu'on en parle. Voilà.
Bah merci à tout le monde,
aussi,
et merci pour les petits mots gentils.
Aussi, je précise que en début d'année, on avait fait un questionnaire, genre vous voulez qui sur le podcast cette année, et Kiblind revenait systématiquement, tu vois.
Pas t'inviter.
Bah c'est très gentil. Je vais devoir m'aller me cacher maintenant, moi, du coup.
Après toutes ces mignonneries, il y a un truc qu'on n'a pas abordé aussi, et bon, un petit peu en filigrane, mais qui pourrait aussi être intéressant, c'est quelles ont été ces 20 dernières années un peu les difficultés aussi peut-être que vous avez rencontrées. Bon, je suis désolé de finir sur cette note-là, mais je me dis que c'est quand même important de l'aborder. Parce que
hormis le papier. Ouais.
Sur Sens Créatif, on aime bien aussi aborder, tu vois, il y a tous ces projets qui font rêver, et que plein de gens se disent, tu vois, je mentionnais Clark Magazine à l'époque, j'ai aussi interviewé Guillaume Leboeuf sur Sens Créatif il y a longtemps, tu vois, et c'était intéressant de voilà,
ouais,
moi
voilà.
C'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément parlé, et puis de découvrir un peu les coulisses, que genre oui, il y a plein de belles choses qui existent, des initiatives, mais il faut aussi savoir que il y a ça et ça, et c'est peut-être pas donné à tout le monde, où il faut savoir dans quoi on met le doigt, quoi. Je sais pas comment.
Il y a évidemment deux choses, mais qui font partie de tous les projets. C'est l'humain. Ça, c'est à la fois ce qu'il y a de génial et qui parfois peut être compliqué. Et ça, c'est notre force, c'est que effectivement, on a un socle amical. Donc, c'est quand il y a des remises en question, ben, ça peut être lourd de sens, mais en tout cas, on peut le partager ensemble. Et ça, c'est du coup quelque chose de super, plus que de compliqué, mais en tout cas voilà, il peut y avoir des complexités à ce niveau-là, au niveau humain évidemment.
Ouais, bien sûr. Le levier du bordel.
Et puis après bah l'argent, hein, bien sûr, l'argent. L'argent, parce qu'il y a des fois des moments où bah il y a pas d'argent, et quand il y a pas d'argent, bah, c'est plus compliqué que quand il y a de l'argent.
Et du coup, vous avez fait comment?
Bah, il faut se serrer les coudes, essayer de s'en sortir, trouver des solutions, ralentir à des endroits. Voilà, heureusement, ça nous est pas arrivé pendant longtemps. Ça a été très fragile au début. Du coup, on a cette culture-là où on peut vivre un peu dans une forme de fragilité financière. Aujourd'hui, c'est quand même plus confortable. Même si ça tient à rien, parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'a pas des fonds conséquents pour assurer nos arrières. Donc, et puis c'est un peu comme l'histoire de quand on remettait sur le magazine. Ben là, on fait un festival, on va à Montréal, ce qui est un peu une hérésie, parce que c'est pas non plus voilà, on n'a pas une assise financière considérable, mais en même temps, c'est ce qui nous éclate, quoi. Voilà. Enfin, du coup.
Why not?
Là, tu parlais de vraiment continuer à s'amuser, c'est un des moteurs, hein, de nos métiers, quoi. C'est super important, quoi.
Carrément.
Parce que sinon on s'amuse pas, alors qu'est-ce que ça doit être ailleurs, quoi.
C'est clair. On a beaucoup de chance.
J'ai bien aimé dans votre numéro argent, justement, l'article, c'est quoi, argent trop cher, je crois, où justement pendant 6 pages quand même, vous développez vraiment la réalité économique des métiers d'illustration, et qui n'est pas simple. Et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant que dans un magazine dédié à ça, vous y alliez sans langue de bois, et j'ai trouvé ça très cool. C'est Maxime, hein, qui y est.
Maxime et Laura, ouais, du coup, qui sur chaque thématique l'angle sur la pratique des illustrateurs et des illustratrices pour effectivement avoir leur retour, parce que c'est les principaux intéressés.
Ouais, trop bien. Bon, bah écoute, Jérémy, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous.
Merci à vous, merci
la galaxie qui blinde
à tout le monde.
Regarde, il y a Jeanne qui a dit « Ça a eu un impact sur les gens, bien sûr. Je crois que c'est eux qui m'ont insufflé l'envie. » Tu vois. Donc, tu as au moins une personne qui a écouté là.
Merci Jeanne, qui
s'est lancée grâce à toi. Merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir été présents avec nous.
Merci à vous deux.
Je souhaite à tous une très très bonne journée.
C'était super. Ouais. Ouais.
Et on vous dit à très bientôt. Et si vous êtes des patates, à très bientôt les potatoes. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas,
Everything is connected!
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.